Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne, le balado radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado, ainsi qu'on est diffusé au 91.9 BPM Sport. Voilà, Hugues Léger, comment te portes-tu en direct du Parc Jarry? Il fait beau, as-tu pu échanger quelques balles par-dessus les magnifiques terrains au parc?
Ben avec le temps du week-end, j'étais pas trop en mesure de frapper à l'extérieur là. Puis j'avais déjà de la récupération à faire de mon tournoi de la semaine dernière. Donc mon corps de 56 ans m'a rappelé la réalité, je dirais après mes deux tours à l'ITF au Mont-Tremblant. Mais il y avait le premier tournoi Challenger série Open de tennis Montréal ce week-end au Parc Jarry à l'intérieur parce qu'il faisait pas beau et on a eu un succès avec un tableau complet hommes et femmes ce week-end. Donc, j'étais bien content de notre premier tournoi cet été.
Nicolas Richard, gros week-end de travail pour toi avec le golf, la F1, le tennis. Qu'est-ce que tu as suivi dans tout ça?
Beaucoup de golf parce que c'était l'Omnium des États-Unis, évidemment un peu de tennis, la course aussi de F1 qui était juste avant le golf, fait que fin de semaine chargée, mais je suis officiellement en vacances pour deux semaines, alors je vais en profiter pour décrocher complètement.
Wow, ben, ça c'est le fun. Merci de couper tes vacances le temps d'une heure ou deux pour venir jaser avec nous autres. Isabelle Étier, re-bienvenue, ça fait un petit bout qu'on t'a pas vu sur le podcast. Comment te portes-tu?
Ça va super bien. Moi, j'ai regardé un peu, mais j'ai surtout pratiqué mes sports en fin de semaine. J'ai joué au golf, j'ai joué au tennis. Et les boys, j'ai fait un trou d'un coup. Je fais partie des 1% des golfeurs à avoir fait cet exploit. Je vous le dis, j'étais encore sur un nuage. 14e trou au Balmoral. Mon fer 6, parce que c'est un 125 verges à peu près en montant, une grosse dénivellation. Tombe sur le verre, j'ai « Ah ouais, pogne la pine, rentre dans le trou », j'ai entendu le bruit, clic-cling, c'était génial. Magique.
Ça, c'est mon rêve, mais ma plus grande crainte, c'est d'en faire un en jouant seul.
Vraiment,
tu peux corroborer ce que
jamais on te croirait, Nicolas, de toute façon, jamais.
Exactement, menteur que je suis.
C'est tellement un beau terrain, le Balmoral. En plus, c'est dans ma cour à Saint-Sauveur. J'ai grandi dans ce coin-là. Là, et puis, j'ai pris quelques verres dans ce coin-là aussi parce qu'il y a beaucoup de chalets d'amis dans ce coin-là. C'est tellement un beau coin et un beau terrain, le Balmoral. Parlant de ça, ben, je disais, j'ai grandi à Saint-Sauveur. Je salue ma maman, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Alors, ben, bonne fête, maman, c'est fait. Et il n'y avait pas que la fête de ma mère. Aujourd'hui, c'est la fête des pères hier. Et alors, j'en profite à tous les papas. Toi, Hugues, au podcast, puisque tu es le seul papa dans le podcast, quoi qu'à moins que Nico, tu nous annonces quelque chose.
Non, merci.
Alors, bonne fête des papas à Hugues Léger. Voilà, et bonne fête à tous les pères. Et Isabelle, tu voulais ajouter un petit quelque chose?
Bien, en fait, moi, j'en ai profité, moi, sur la plateforme en fin de semaine pour poser des questions. À quel sport associez-vous votre papa? Ça m'a fait réaliser, bon, il y a beaucoup le hockey, le golf, il y a un peu de tennis, mais ça m'a fait penser qu'il y a beaucoup de papas entraîneurs au tennis. Hein, on commence, il y a des mamans, mais beaucoup des papas. Quand on regarde du côté professionnel, on pense à Félix Auger-Aliassime, à Leilani Fernandez, puis il y en a plusieurs, mais bon, une petite mention à ces papas entraîneurs-là qui transmettre leur passion dans le sport et au tennis pour leurs jeunes et leurs petits-enfants aussi.
Ben, c'est bien fait de le dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires de famille dans le monde du tennis. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de papas. Il y a Andy Murray qui était avec sa maman, qui est d'ailleurs une des entraîneuses ou entraîneurs de tennis les plus reconnues dans le monde. Mais il y a beaucoup de papas. Là. Félix en est un. Maria Sharapova a travaillé avec son père aussi. Écoute, on peut en nommer plein. Alors voilà, le message est fait. Bonne fête des pères à tout le monde. Et c'est toujours un plaisir de savoir si vous êtes un papa que vous nous écoutez. On sait qu'on en a quelques-uns parmi nos auditeurs parce que notre banque de download continue d'augmenter. Je regardais les chiffres, là, Hugues et Nico, et honnêtement, nos chiffres continuent de monter de façon assez impressionnante. Je suis toujours surpris quand je vois les chiffres. Parlant de ça, parlons de tennis puisque c'est notre mandat. Et commençons avec celui qui était de retour au jeu. Hugues, je vais t'entendre sur Milos Raonic. Il avait joué son premier match, si je me trompe pas, au moment où on s'est parlé la semaine passée. Bon, il a joué quand même un deuxième tour contre Jordan Thompson qu'il a perdu, mais est-ce qu'au final, c'est un retour intéressant pour Milos Raonic?
Oui, et il faut quand même dire que Jordan Thompson s'est rendu en finale. Hein, et il a fait quand même un très beau parcours dans ce tournoi la semaine dernière, le Liberner Open, donc aux Pays-Bas. Je te laisse le nom, le soin de donner le nom de la ville, Alexandre.
Bois-le-Duc.
C'est pas évident. Donc oui, Miloš, c'est un retour qui est quand même réussi contre Kecmanovic, top 50, bien établi. Miloš qui revient surtout en forme physique. Il a perdu beaucoup de poids, il avait l'air fit. Son gros service était de retour, il a bien géré ce premier match. Donc, je pense que ça lui donne confiance pour la suite. Et moi, j'ai bien hâte de le voir dans les 2-3 prochaines semaines là, avec les tournois sur gazon qui mènent à Wimbledon. C'est tellement une belle nouvelle de voir Miloš revenir. On pensait qu'il avait pris sa retraite, pour être clair, ça faisait 2 ans qu'il ne jouait pas. Il a passé par des moments très difficiles. Donc, oui, c'est un retour réussi, c'est tout ce que je peux dire. Il profite de son classement protégé aussi, tant mieux. Il en a fait bon usage. Donc, bravo.
Nico, as-tu été surpris de voir à quel point il a été dans la game, comme on dit? T'sais, il aurait pu être complètement déclassé après autant de temps. Et Kecmanovic, au premier tour, là, c'est un adversaire baromètre intéressant parce que c'est un bon vétéran, un bon joueur sur le circuit. Je veux dire, c'est un gars que tu vois dans un tableau et que tu ne considères pas battu d'avance dans n'importe quel tableau.
Oui, mais je dirais que ce qui m'a davantage surpris, parce que je me disais, si Raonic revient après un an et demi d'absence, c'est parce qu'il sait qu'il est capable de le faire. Mm-hmm. Ce qui m'a surpris, moi, c'est l'engouement autour de ce retour-là et pas seulement de la part des médias canadiens. Osim Orgado sur Twitter, qui est comme la référence tennis, en a parlé abondamment. Ben Rutherberg, notre ami aussi, en a parlé beaucoup. Fait que cet engouement autour de Miloš, qui est toujours présent, qui est toujours assez important aussi, ça m'a surpris. Parce que je pensais qu'on l'avait oublié, puis je me disais, c'est peut-être nous, les médias québécois, canadiens, qui sont un peu chauvins avec ce retour. Mais non, ce qu'il a fait dans le passé demeure et ce retour-là était plus attendu que ce que je l'aurais pensé.
Ben ça, c'est en tout cas, j'ai hâte de voir parce que c'est quand même très positif ce retour-là. Isaac, peut-être un mot rapide sur Raonic. Est-ce que tu es contente de le revoir en action?
Ben moi, je suis très contente de le revoir en action, mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est de le revoir en action à 32 ans. Puis aujourd'hui, tu sais, on regarde ce que Djoko fait à 36 ans. Les athlètes sont de plus en plus présents à des âges avancés et ça nous démontre comment la gestion du corps, la gestion du mental est excessivement intéressante et a beaucoup amélioré à travers les années. Fait que moi, c'est ce que je trouve beau. C'est vrai qu'il est en forme. J'ai hâte de voir la suite, comment il va continuer à nous épater. Mais moi, je trouve que c'est une belle nouvelle pour tous les athlètes. On peut continuer un peu plus longtemps dans notre sport.
C'est vrai que c'est intéressant c'est de constater à quel point, ben, il n'y a pas si longtemps, le début de la trentaine ou la mi-trentaine, c'était considéré comme très vieux. Et là, ben, tu fais un retour et tu te dis, bon, mais là, il en a peut-être encore pour quelques années, surtout de la façon dont il a joué. Alors, intéressant pour Miloš Raonic, retour intéressant. Il a battu Kecmanovic au premier tour, comme on en parlait. Il a perdu contre Jordan Thompson au deuxième tour, un 7-6 au premier set et un 6-1 par la suite. D'ailleurs, il va retrouver Jordan Thompson au tournoi. Typique préparatoire à Wimbledon à Queens.
Le Queens, ça va être demain ce match hein, en passant. Donc, à compter, pas avant midi et demi demain, il sera le deuxième match sur le court numéro 5 demain. Bon, c'est plate, hein, il ne joue plus sur le central. Mais donc, j'ai bien hâte d'avoir, moi, je pense qu'il va prendre sa revanche demain contre Jordan Thompson.
La mauvaise nouvelle, comme tu le disais, Hugues, en début d'intervention, c'est que Jordan Thompson a quand même fait la finale sur ce tournoi-là. Il n'y avait pas, beaucoup de gros noms dans ce tournoi-là, mais quand même, il va arriver avec de bonnes sensations et beaucoup de rythme. Alors, ben voilà. Intéressant de suivre Miloš Raonic. Retour réussi, je pense, dans son cas. Et il y a un intérêt certain encore au Canada pour lui. Regarde, sûrement que ça a été pour la même chose pour vous, les boys, mais moi, la radio m'a appelé cette semaine presque uniquement pour parler de Miloš Raonic. Là. Alors, il y a quand même un intérêt pour ce gars-là au service qui aura marqué notre imaginaire. Autre Canadien qui était en action la semaine passée, c'était Denis Shapovalov à Stuttgart. Et dans le cas de Denis, ben, c'est une autre défaite rapide dans un tournoi. C'est contre Fukovic au premier tour. Que pensez-vous de ça, Nico?
C'est sa saison, hein, Denis Shapovalov, les gars. Non, mais c'est un peu dommage parce qu'on se disait que sur gazon, c'est peut-être là où il avait le plus de chances de rebondir. Or, à ce tournoi qui est bon, préparatoire à Wimbledon, c'est décevant de l'avoir à gérer ainsi, mais on le sait, Denis, dans une période d'adaptation, son équipe est en mouvement, son équipe change, il est en train de restructurer son quotidien. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu décevant comme, comme en temps de saison, voire là, on est quasiment à la moitié de la saison, fait que ce serait le temps pour Dennis de commencer à gagner le plus de matchs.
Et là, on en parlera un peu plus tard. Il a gagné à Hall ce matin, là, mais il reste que contre Foukovic. Après sa défaite contre Foukovic, il avait une fiche négative de 10 victoires, 11 défaites. Honnêtement, pour un joueur de ce niveau-là, c'est rare quand même qu'on va voir des fiches négatives là, à ce temps-ci de la saison. Hugues, autre défaite de Shapovalov à rapidement dans un tournoi, tu penses quoi de ça? Est-ce que tu es comme Nico, t'es un peu résigné sur l'image de sa saison?
Non, mais je pense qu'il sous-performe. Je pense que son classement a descendu. Je pense qu'il a besoin de faire un certain reset assez général, je dirais, dans son approche au jeu, Dennis, en ce moment. C'est un peu le même discours qu'on a depuis plusieurs mois sur lui, mais il peut toujours nous surprendre. Donc, il gagne son premier tour à Halle, comme vous l'avez dit aujourd'hui. J'essaie de voir, là, son prochain tour sera contre... Je vous dis ça tout de suite, si vous l'avez devant les yeux. Ouais, il devrait jouer contre le gagnant de Tim Zverev. Donc, deuxième tour intéressant là, en perspective. Donc, gagnant de Dominic Thiem, qui est sur une wildcard contre Alexander Zverev. Zverev devrait passer, mais encore une fois, un Shapovalov Zverev, j'ai de la difficulté à dire qu'il va gagner. Je pense que Zverev aura un petit avantage, mais Shapovalov peut nous surprendre. Donc, c'est toujours une boîte à surprises un peu, Dennis, mais ce que j'ai hâte de voir de son côté, c'est de la constance. Un meilleur qui soit un peu mieux groundé, un peu plus fiable au niveau de ses performances. Mais j'ai confiance qu'il peut y arriver encore.
On pourra en reparler un peu plus tard avec Abraham là, sur qu'est-ce qui s'en vient la semaine prochaine, mais ouais. C'est un peu dommage parce que Dominic Thiem aurait dû affronter Félix Auger-Aliassime qui s'est retiré pour ce tournoi-là, c'est-à-dire qu'il n'aura pas joué depuis sa défaite à Roland-Garros. Alors, bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec Félix. Il va arriver, en tout cas, à tout le moins à Wimbledon sans trop de matchs. Semble-t-il qu'il y aurait peut-être une blessure là. Ouais, qui veut régler. Et j'ai l'impression qu'il y a plus qu'une blessure là, dans le cas de Félix, là, ouais. De la façon dont ça se passe. Pour en venir à Chapeau, bon, sa défaite contre Foukovic. En même temps, bon, sans trop vouloir le protéger inutilement, il a perdu contre Foukovic qui finalement s'est rendu en demi-finale et a perdu contre l'éventuel champion du tournoi, Francesc Tiafoe, mais ça semble pas te convaincre.
moi, je vous le dis, j'aime jamais les bonnes défaites et les défaites relatives. C'est deux termes qui me dérangent un petit peu. Là. Il ne faut pas prendre cette voie-là trop souvent. Vous savez que je suis de l'école où il faut trouver des solutions. Voilà.
Ouais.
Alors, il n'aura pas passé. C'est une autre défaite très rapide. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tournois cette année où il n'a pas passé le deuxième tour.
Puis ce qui est dommage, c'est que Chapeau, il a tout dans son coffre à outils pour pouvoir performer. Il est tellement beau à voir regarder, mais on dirait que c'est comme, il arrive tout le temps un moment dans les parties où ce qu'il décroche, où ce que là, son émotion prend le dessus sur son talent, et c'est vraiment la chose qu'il doit travailler. Tu sais, si je fais un parallèle avec Sabalenka, elle a réussi à gérer ça, et là, on voit qu'elle a une belle saison cette année, il faudrait vraiment que Chapeau soit capable d'aller gérer la partie psychologique pour pouvoir se permettre, parce qu'au niveau de talent, il l'a.
Ça fait quand même quelques semaines qu'il a dit qu'il voulait faire des changements dans son jeu, dans son entourage également. Est-ce que, quand on fait des changements comme ça, Hugues, est-ce que c'est pas normal de connaître un passage à vide? Peut-être que là, en ce moment, il est en train de changer des habitudes motrices.
Ah, c'est certain.
Et là, ben, évidemment, ça nuit à son jeu.
C'est certain. Quand tu changes tes patterns habituels, il y a un moment où tu dois te réadapter, que ce soit au niveau technique, au niveau tactique ou même au niveau préparation mentale. C'est certain que dès que tu changes ta routine ou ta façon de faire, il y a un moment où tu dois t'ajuster. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y ait la lucidité de le faire. S'il fait les bons choix, moi, je trouve que c'est très sain, en fait, qu'il se remette en question parce qu'il devait le faire. Depuis un an, au niveau du coaching, ça a beaucoup bougé. Avant, n'oubliez pas, c'était sa mère qui l'accompagnait beaucoup là, jusqu'en 2021, si je me trompe pas. Elle était très, très présente. Donc, il y a eu un peu des portes tournantes au niveau du coaching, mais le fait qu'il se remette en question. Par contre, il faut qu'il fasse les bons choix. Je pense que c'est une bonne chose. Et moi, je vous le dis, j'ai de l'espoir pour Shapovalov. C'est un garçon intelligent. Et c'est un gars extrêmement talentueux qui peut battre, on le répète, les meilleurs joueurs au monde. Donc, on a un genre de talent brut encore entre les mains qui se cherche un peu.
Assurément. Et qui sait, peut-être qu'il connaîtra une deuxième moitié de saison complètement folle. J'ai effleuré le nom de Frances Tiafoe. Je veux qu'on en parle rapidement, messieurs et Isa, parce qu'il a remporté ce tournoi-là. Et là, lui, ça commence à être toute une saison pour lui parce que c'est son quatrième titre en carrière, mais un troisième cette année. Bon, on est peut-être loin là, mais est-ce qu'il faudra commencer à le considérer comme un candidat même pas pour Wimbledon, mais pour le US Open, messieurs, parce que c'est quand même toute une performance dans le cas de Frances Tiafoe. Hugues, tu sembles en accord.
Ce que j'aime de Tiafoe, Alex, c'est sa constance. Toutes les surfaces, il peut performer. Il a bien fait au dernier tournoi sur terre battue avant de passer du côté européen. On sait ce qu'il a fait au US Open l'an passé. Là, il gagne sur gazon. Et messieurs, on parle beaucoup de la résurgence du tennis américain. Ben voilà, depuis 11 ans, c'est la première fois qu'il y a deux Américains dans le top 10. Tiafoe qui passe au top 10, qui rejoint Taylor Fritz. Donc, moi, j'aime beaucoup la constance de Frances Tiafoe et tout le monde l'adore. C'est un gars qui a une super personnalité en plus. Là, très content pour lui.
Ben oui, je suis tombé en bas de ma chaise, Hugues, quand j'ai vu cette statistique-là, parce qu'évidemment, je ne suis pas les top 10 américains aux deux semaines, là, mais la première fois depuis 2012 qu'on a deux Américains dans le top 10, c'est presque incroyable. Nico, qu'as-tu pensé de cette victoire-là de Frances Tiafoe et est-ce que, maintenant, on le doit considérer comme certainement un aspirant à un titre grand chelem et peut-être encore plus dangereusement au US Open.
Oui, puis tu sais, Hugues parle de sa polyvalence. Moi, ce qui m'impressionne le plus chez Tiafoe, c'est sa capacité à élever son jeu d'un cran quand c'est nécessaire. Ouais. Tiafoe, c'est pas un gars qu'on voit très souvent, mais c'est un gars lorsqu'il joue dans les grands chelems ou dans les ATP 1000, il est toujours là. Rappelez-vous, l'an passé, US Open, Hugues Leifleury contre Alcaraz. Je pense que ça fait durer 7 heures comme partie. C'est absolument dingue contre l'éventuel champion. Tiafoe, c'est un gars, c'est un showman, c'est un gars qui a du caractère.
Un gamer.
C'est un gamer, puis c'est un gars qui est capable de dealer puis de négocier avec la pression. Donc oui, pour le US Open, parce que c'est son tournoi, il est chez lui. Mais oui, là, dorénavant, à Wimbledon, maintenant qu'il est capable de gagner sur gazon, dans un environnement où c'est plus ouvert, parce que sur gazon, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de parité, où là, il peut vraiment gagner des points, puis ultimement, élever son jeu d'un cran, sans grand chelem, puis à Wimbledon, pourquoi pas. Et là, il sait qu'il est capable de gagner sur gazon. Attention.
Et quelle façon il a fini ce match-là. Je ne sais pas si vous avez vu les faits saillants au bris d'égalité, dans un long bris d'égalité. D'ailleurs, il y a des bris d'égalité dans tous ses matchs. Ce n'est pas un tournoi qu'il a volé, mais c'est un coup complètement spectaculaire sur lequel il a fini.
Et Tiafoe, c'est ça. C'est de se battre jusqu'à la fin. Puis je suis convaincu que si on sondait les joueurs du circuit, il dirait aussi que Tiafoe, c'est l'un des joueurs les plus agréables à affronter. Combien de fois on le voit applaudir, faire un pouce en l'air?
C'est un chic type.
Exactement. Donc, tu sais, je suis convaincu que s'il avait perdu ce match-là, il aurait été le premier à sourire puis dire à son rival, « Hey, tu m'as eu, mais pas la prochaine fois. » Tu sais, fait que j'ai cette attitude-là, je pense, dans un monde où on en parle souvent avec Tsitsipas, Medvedev, où c'est plus morgue, c'est plus sombre, c'est plus replié sur soi-même. Tiafoe, c'est un vent de fraîcheur, puis j'espère qu'on va le voir longtemps.
Et bon, sans qu'on perde trop de temps sur cette finale-là, je vais quand même faire un mot sur Lennard Struff qui, lui, mine de rien, commence à se placer parmi un joueur dangereux. Là. Il a fait la finale à Madrid où il avait battu d'excellents joueurs pas si longtemps comme Karatsev et avait fait quand même une bonne opposition à Alcaraz. Et puis là, se rend en finale à Stuttgart. Et dans cette finale et dans ce parcours-là, il a battu Tommy Paul, Richard Gasquet, Hubert Hurkacz et a fait un bris d'égalité, long bris d'égalité à Frances Tiafoe. Alors lui, il est sur une bonne séquence, Lennard Struff, l'Allemand. Et puis, honnêtement, faudra surveiller. Honnêtement, je regardais ses statistiques avant la finale. Il avait 57 as sur un pourcentage de première balle de 65%. Alors, quand ton service marche à fond comme ça, honnêtement, ça va être dur. C'est dur à battre. Isa, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur cette finale-là?
Non, tu as bien couvert le sujet.
Ben merci, c'est bien gentil. Du côté féminin maintenant, il y a une fille dont on va parler que vous connaissez peut-être parce qu'elle a quand même un bon beaucoup de monde qui la suit sur les médias sociaux. Katie Bolter, la Britannique qui remporte un premier titre en carrière, elle a battu Anna Burage 6-3 6-3. C'est son premier titre en carrière, elle était contente. C'était pas un tournoi à Nottingham où il y avait beaucoup de monde là. Joanna Konta était la première tête de série et ça fait un petit peu qu'on n'a pas pas entendu parler. Mladenovic Buskova est également là, Harriet Dart dans ce tournoi-là. Et aux Pays-Bas, ben, c'est Alexandrova qui l'a remporté du côté féminin. Ce qui est intéressant dans son cas, elle, c'est qu'elle a 4 titres et ben, 2 sont survenus aux Pays-Bas. Alors, visiblement, elle est très, très à l'aise. Elle a défendu son titre à Bois-le-Duc, comme le nom de la ville en français. Puis elle a mis la main sur une bourse de 32 000 $. Alors voilà, ce sont les résultats du côté féminin de ce côté-là. Je veux revenir sur un tournoi Challenger, Hugues, parce que Andy Murray a quand même remporté un 3e titre Challenger cette année. C'est un 2e sur gazon. Est-ce que c'est une bonne stratégie pour Murray en prévision de Wimbledon de jouer ces Challengers-là et de se rendre loin?
Je pense qu'il va être à surveiller les gars à Wimbledon, Andy Murray. Là, il va faire un de ses tournois préférés cette semaine, le Queens, qu'il a gagné à plusieurs reprises. Oui, je pense que c'est une bonne stratégie. Il gagne en volume de jeu, il gagne en confiance. Andy Murray est en forme et c'était une semaine où on revoyait les joueurs des années 2000. Kei Nishikori, qui faisait un retour aussi la semaine dernière, qui gagne un tournoi. Écoute, c'est vraiment impressionnant. On voit deux ex-top 10 de très haut niveau qui sont en forme en ce moment. Ça fait plaisir à voir, mais je souligne encore une fois qu'Andy Murray connaît une bonne saison. Il se prépare pour Wimbledon et attention, moi j'aimerais pas ça l'avoir du côté de mon tableau si j'étais à Wimbledon cette année, Andy Murray.
Puis je tiens à préciser qu'il fait partie de la vidéo promotionnelle de Wimbledon. Je sais qu'on va en parler tantôt, mais Andy Murray est dessus.
Ben, avec raison, parce qu'il est champion de ce tournoi-là le passé. Il est lui qui a ramené l'honneur britannique à Wimbledon. Alors, il a définitivement sa place-là, mais oui, on va en reparler, vous êtes sûr. Nico, c'est quand même 10 victoires de suite, 2 victoires en Challenger de suite. Est-ce que tu trouves toi aussi que c'est une bonne stratégie pour Andy Murray?
Complètement, il doit jouer le plus souvent possible. Cependant, avant de le mettre dans les favoris à Wimbledon, il faut faire attention. N'oublions pas qu'Andy Murray, c'est mi-homme, mi-métal, là, tellement il est comme réarrangé. Puis Wimbledon, c'est 2 semaines.
J'aime
bien. C'est évident, mais c'est vrai que s'il y en a un qui peut le faire, c'est bien lui. Chez lui, ce serait vraiment exceptionnel. Ça fait longtemps que les Anglais, peut-être mis à part Raducanu, là, n'ont pas eu quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent. En fait, je pense que ça remonte à lui, Andy Murray. Alex t'en parlait quand il a gagné non seulement Wimbledon, mais alors Olympique. Je ne sais pas si je le mets parmi les favoris. Là. Hier, je voyais des gens sur Twitter le mettre parmi les 10 favoris. Là. Je pense qu'on pousse un peu. Là. Mais s'il peut arriver au moins en 2e semaine, ce serait mission accomplie, non seulement pour Murray, mais pour le tournoi et puis l'organisation.
Je suis d'accord avec ça. Ouais.
Hugues, rapidement, tu voulais faire un petit mot sur Nick Kyrgios et Gasquet?
Ben, Kyrgios qui faisait aussi son retour après presque un an d'absence, il faut en parler. Défaite au premier tour. Et là, on a vu un Kyrgios... Je trouve qu'il n'avait pas l'air très en forme. Je pense que physiquement, il n'avait pas l'air prêt. Bon, il était dans ses frasques habituelles, mais quand il joue à son plein potentiel, ça peut être amusant de voir ses frasques, mais là, ce n'était pas le cas. Donc, là, il s'est retiré aussi cette semaine. Oui. On verra s'il sera prêt pour Wimbledon, mais bon, c'est un retour. Je pense qu'il ne pouvait pas s'attendre à un miracle. Là. Il revient de nulle part, en fait, mais il y a quand même des joueurs c'est Alcaraz qui a dit s'il y a un joueur qui peut menacer Djokovic, même cette année à Wimbledon, ça serait Kyrgios. Ça m'a un peu surpris comme déclaration de Carlos Alcaraz, mais on a bien hâte de voir Kyrgios à Wimbledon, là, s'il est en forme, il peut être un facteur, mais visiblement, il n'était pas au sommet de sa forme. Là.
Et les organisateurs de Wimbledon ont tous si hâte de voir Nick Kyrgios, parce que lui aussi était dans la promo de Wimbledon. On en parle, si vous ne l'avez pas vu, il y a quand même quelque chose d'important, on va en parler un peu plus tard, là, mais c'est pas innocent au fait qu'on drop ces noms-là, comme on dit. Tu fais bien de le mentionner quand même, Hugues, qui était de retour au jeu, c'est quand même un joueur qui marque l'imaginaire. Au retour, messieurs, on va faire une courte pause. Au retour, on va parler de Félix Auger-Aliassime, parce que Nico, tu as eu la chance de le rencontrer.
Les cartes cadeaux Monville sont toujours une bonne idée. Que ce soit pour offrir à un ami, à de la famille ou pour vous faire plaisir, passez à l'action et achetez dès maintenant votre carte cadeau sur hotelmonville.com. Le restaurant Monem, c'est revenir à l'essence même de l'art de vivre et du bien manger. Une offre qui met de l'avant des cocktails créatifs et des plats généreux inspirés de la gastronomie française. Venez vite le découvrir. Rendez-vous sur monem.ca.
Avant qu'on passe à Nico, je veux qu'on revienne sur quelques résultats un peu plus mineurs parce que, bon, on a parlé des gros tournois, mais Eugénie Bouchard était en action. Bon, déjà ce week-end, là, elle était dans les qualifications pour Berlin. Elle a gagné son premier match, mais elle a perdu contre l'ancienne numéro 2 mondiale, Zvera Zvonareva. On parlait des joueurs des années 2000, ben ça, c'en est une, Hugues. Elle a quand même fait un 3-7 à Zvonareva, mais s'incline en qualification et ça a été aussi le cas de Rebecca Marino qui s'est inclinée lors des qualifications. Là. Alors, dans le cas de Rebecca et Eugénie, Nico, est-ce qu'on doit avoir l'attitude suivante, c'est-à-dire de juste prendre ce qu'ils nous le donnent puis pas trop avoir d'attente et c'est tout, même dans le cas de Rebecca?
Mais oui, mais surtout Eugénie. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver parce que sur les médias sociaux, notamment, la voit s'entraîner régulièrement, constamment sur gazon. Elle semble prendre plaisir à s'entraîner. Je pense qu'elle est de retour du moins dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'elle veut jouer au tennis, elle s'entraîne assidûment. J'ai hâte de voir Wimbledon. Je ne sais pas si elle va y aller, si elle va recevoir une invitation ou dans les qualifs, ouais. Bref, mais on a aperçu des brèves d'Eugénie depuis le début de la saison, mais je suis curieux, extrêmement curieux de voir ce qui va arriver pour elle dans les prochaines semaines sur gazon, parce qu'ultimement, on le sait, c'est sa surface de prédilection, Eugénie.
Ben oui, oublions pas, hein, finaliste de Wimbledon contre Kvitova en 2014, gagnante de Wimbledon Junior, donc c'est là où elle a connu ses plus grands moments.
Et bon, je parlais de Rebecca Marino, elle aussi, elle a perdu. Elle était à Nottingham la semaine passée, elle avait perdu contre Harriet Dart, elle aussi, rapidement au premier tour, en fait. Là. Et puis, bon, elle ne s'est pas qualifiée pour le tournoi de la semaine prochaine. Alors, on verra qu'est-ce que ça va donner dans le cas de ces deux-là, mais je tenais quand même à ce qu'on mentionne ces résultats canadiens-là. Et parlant de Canadiens, ben, y en a un qui ne jouera pas cette semaine, c'est Félix, parce qu'il a déclaré forfait, il est blessé, semble-t-il. Il aurait dû jouer son match à Dominic Thiem, mais Nico, ça ne t'a pas empêché de lui parler, t'as pris de ses nouvelles et t'as d'ailleurs écrit un article. Peux-tu nous donner un peu des nouvelles de Félix et nous parler un peu de ton article?
Oui, mais on se parlait brièvement de en fait, c'est de son implication. Là, c'est un peu le thème de l'entretien vis-à-vis la fondation du CHU Saint-Justine. On sait que Félix est devenu le porte-parole officiel de la nouvelle campagne qui, dit-on, est la campagne la plus importante de l'histoire du Québec, c'est-à-dire ramasser 500 millions de dollars en dons pour la fondation du CHU Sainte-Justine d'ici 2028. Puis ce que j'ai apprécié de Félix, puis en même temps, ça ne m'a pas surpris, c'est de voir à quel point il était impliqué. C'est-à-dire que vous savez comment ça marche, là. Parfois, il y a certains athlètes, certaines personnalités qui deviennent porte-parole ou qui s'engagent vis-à-vis un organisme ou un entretien ou une fondation ou une compagnie. Puis ultimement, c'est de prendre une photo puis de la coller vis-à-vis le nom de l'entreprise, puis c'est à peu près ça. Mais Félix a vraiment cherché à comprendre dans quoi il s'impliquait, parce que vous le savez, puis vous vous en doutez, Félix reçoit des offres de partout sur la planète, mais il a choisi le CHU Sainte-Justine d'abord parce que ça lui est cher, parce que lui et sa sœur sont nés là, mais aussi parce qu'il trouvait important puis ambitieux la mission de l'hôpital, c'est-à-dire de guérir, mais surtout prévenir les maladies chez les enfants malades vis-à-vis la technologie artificielle. Donc, il connaissait son sujet, il était rodé, on voyait, puis je percevais dans son œil puis dans son ton qu'il était vraiment intéressé par ce qu'il faisait. Donc, notre bonne cause pour Félix. Puis, ça lui permet aussi puis je lui en ai parlé, de s'ancrer un peu plus dans la culture d'ici, parce que on sait, il vit à Monaco, il vit en Europe, il n'est pas ici aussi souvent qu'il le voudrait. Donc, de s'impliquer de la sorte, ça lui permet de garder un pied non seulement à Montréal, au Québec, mais dans sa communauté. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Puis, en deuxième partie d'entre vous, on a parlé de son logo, puis je suis convaincu que ça a intéressé Hugues Léger, parce que je voulais connaître la démarche derrière l'annonce de ce logo-là dont on a parlé, qui est un peu mitigé. Tu sais, on se disait, est-ce que le timing est bon? Est-ce que le logo est bon? Est-ce que bon? Puis, dans l'article, bon, il est écrit que ça fait quand même 4 ans qu'il pense à ce logo-là depuis 2019. Il a essayé plein de trucs, Adidas s'en est mêlé, finalement, il est extrêmement content de son logo, puisque j'ai aimé, c'est à quel point il avait une vision à long terme. Parce qu'on le sait, un logo, comme Federer, comme Djokovic, on en a seulement un, puis on le garde pour le reste de sa carrière, et même après sa carrière de joueur de tennis. Donc, Félix, c'est important pour lui de déjà penser un peu à l'après, puis de se dire, qu'est-ce qui va me rester lorsque je ne serai plus joueur de tennis, mais que je voudrais quand même continuer d'aider, puis d'avoir un impact dans la société. Et avec ce logo-là, peut-être viendront d'autres projets. Mais là, ces trois initiales seront sur ses chaussures à Wimbledon. Mais il a dit aussi que lorsqu'on gagne, puis lorsqu'on veut gagner des grands tournois, ça prend une image de marque. Ça prend quelque chose pour se représenter et ce à quoi s'accrocher. Pour lui, ce sera le logo. Et donc, voilà, c'est un peu le fruit de mon entretien avec Félix. On a aussi parlé de Babola, là, vu que je suis rendu avec Babola. J'ai switché depuis avec Wilson. Donc, pour savoir, lui, c'était depuis quand il était avec Babola. Puis je pense pas que Félix va changer de raquette et de manufacturier d'ici la fin de sa carrière. Je pense qu'il est confort avec Babola.
Tu parles de Paula Babola?
Je parle de Paula Babola et de Stéphanos, lui, là.
Hugues, rapidement, ça implique quoi pour un athlète de s'impliquer avec une fondation comme ça? Parce que, comme Nico le disait, c'est pas juste de mettre ta photo, là. Tu sais, c'est un engagement qui est personnel aussi, souvent, pour ces athlètes-là. Ça implique quoi?
Ben, il y a plusieurs éléments. La plupart des athlètes de haut niveau qui engrangent des grosses sommes aussi en termes de revenus vont avoir une fondation. Donc, ils vont s'impliquer sur les sujets qui les touchent particulièrement. Je pense qu'ils prennent ça très à cœur parce qu'ils ont le choix parmi plein de fondations, plein d'enjeux, plein de sujets. Donc, je pense que quand ils font un choix, c'est quelque chose qui les touche de façon personnelle. Donc j'admire ça comme démarche. Et je pense qu'effectivement, quand ils s'impliquent, ils font sérieusement, ils sont bien briefés, ils ont des messages clés qu'ils doivent transmettre aussi, ils sont bien préparés à ce niveau-là. Et visiblement, Félix est un ambassadeur excellent pour toutes les marques et toutes les fondations avec lesquelles il est actif ou toutes les causes. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, il y a un élément souvent de déduction d'impôts aussi. Donc ça, c'est une façon aussi de via leur fondation de peut-être économiser un petit peu au niveau fiscal. Mais avant tout, je pense que c'est un territoire donnant où des athlètes de haut niveau vont sensibiliser beaucoup de gens du grand public et ça va apporter plein de bonnes choses.
Isa, toi aussi, tu es une experte marketing. Bon, pour un athlète de s'impliquer avec une fondation comme ça, est-ce que tu vois ça d'un bon œil? Puis est-ce que ça implique beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres éléments? Est-ce que ça peut être une diversion aussi pour le sport?
Bien, en fait, moi, la première partie de la question, c'est que chaque athlète maintenant, c'est une marque. Puis on le voit dans tous les sports, ils deviennent des personnalités, des influenceurs, des ambassadeurs. On parle, bon, le logo de Félix, bien, c'est qu'il est en train de mettre en place toute sa marque pour vivre à long terme. J'ai une petite pensée à Naomi Osaka qui ne joue pas présentement, qui est excessivement présente encore sur les médias sociaux, qui a développé, avec Yonex, une raquette que d'ailleurs je l'ai achetée parce que je la trouvais super belle, puis avec le sac et tout ça. Fait que il est en train de construire le présent et le futur avec sa marque. Puis, à travers, lorsqu'on bâtit justement tes piliers de ta marque, tu as ta personnalité, tu as tes valeurs. Et dans tes valeurs, c'est là que tu vas aller chercher où est-ce que tu vas aller t'engager. Et oui, c'est important de s'impliquer, de redonner. Puis souvent, on va choisir des causes qui sont en lien avec ces valeurs-là et cette personnalité-là de la marque. Parce que Félix, oui, c'est un être humain, mais c'est une marque maintenant. Puis je tiens à préciser, tu sais, moi, j'étais en France la semaine dernière pour l'ouverture de la cage à Bordeaux. Et donc, j'avais toute la promotion, tu sais, la fin de Roland-Garros. Bien, tu sais, pour les quarts de finale, le titre pour revoir, c'est, on parlait de Félix Auger-Aliassime. Quand on regarde les publicités, écoute, aux deux, trois publicités, je voyais Félix Auger-Aliassime en France. On parle de Dior, on parle d'un peu partout. Et ça m'amène à la deuxième portion de ta question. Moi, je m'inquiète un peu à toute la présence, justement, dans les publicités, dans les médias de Félix, autre que tennis. Est-ce que là, on est justement dans une période où c'est parce qu'il est blessé qu'il en profite? Où il est vraiment en train de se sortir un peu de son ce qu'il doit faire, le tennis, mais en même temps, c'est tellement payant. Tu sais, je reviens encore à Naomi Osaka. Dans le top 100 des athlètes les mieux payés, il n'y a seulement que deux femmes, Serena Williams et Naomi Osaka. Puis c'est des femmes qui ont très bien géré leur marque. Donc, tu sais, je suis un peu dans le top 10 dans les femmes, il y a Leilani Fernandez. Fait que, tu sais, je ne sais pas, moi, je me questionne. J'aimerais ça le voir vraiment très assis sur son tennis, puis j'aimerais ça le revoir en pleine forme au tennis.
Bon, en même temps, ouais, Hugues, tu voulais acheter quelque chose?
Je suis 100% d'accord avec tout ce que dit Isabelle. Par contre, en ce moment, c'est son pic là, qui est en train de débuter. Donc, évidemment, il faut qu'il capitalise sur les offres qui lui sont faites. Je pense que Bernard Dansereau fait un bon boulot, Dessureau, son agent, fait un très bon boulot avec lui en ce moment. Sa marque est très forte en Europe, en France spécifiquement, tu l'as dit, Isabelle, avec Dior, avec BNP, avec Renault. C'est des grosses, grosses marques là, du CAC 40 en France. Donc, tant mieux pour lui. Mais je pense qu'il est bien entouré, puis il va savoir faire la part des choses entre ce qu'il doit faire sur le terrain, son équilibre mental, son repos aussi, parce qu'on sait qu'il a beaucoup joué en fin 2022. On pense que ses blessures, c'est pas que ça qui va pas. Je pense qu'il y a plein de choses là, qui lui pèsent en ce moment, Félix. Nico pourra en rajouter un petit peu, mais moi, je pense qu'il fait bien aussi d'aller tirer le maximum de sa marque en ce moment et de se positionner par la suite avec sa propre marque FAA. C'est le moment pour le faire. Après, j'étais un peu critique sur le timing du lancement de sa marque. Vous vous souvenez, il y a 2-3 semaines, oui. C'était pas un courant, disons, favorable, au du fait que c'était Roland-Garros, un pays où il est très actif là, en France avec ses activités. Mais je pense que ses choix commerciaux en ce moment, pour lui, c'était le bon moment pour les faire.
Oui, puis il l'a exprimé aussi très tôt dans la conversation, c'est-à-dire qu'on parlait de la fondation, de ses engagements, du logo. Puis il me l'a dit, il dit « Je ne suis pas naïf. » Il dit « Je sais que si je ne gagne pas, rien de tout ça de valeur. » Ma priorité, malgré tout ce qu'on peut voir à l'extérieur, ma priorité, c'est lorsque je fais mon calendrier au début de la semaine, c'est de m'entraîner, de rester en forme, de soigner mes bobos puis de me préparer à gagner des grands titres. Il le dit rapidement dans la conversation. Fait que je trouve ça chouette qu'à 22 ans, puis en même temps, c'est pas surprenant. Mais il le sait que malgré tout l'appareil autour de ce qu'il fait, qui n'est pas du tennis, il sait que la priorité, c'est de gagner des matchs parce que sans ça, tout ce qu'il faut autour n'a pas de valeur.
Et moi, projeté, est-ce que Isa disait, tu sais, elle a dit, bon, il y a quand même beaucoup de choses présentement qui se passent dans le cas de Félix qui sont hors tennis, et c'est vrai, sauf qu'en même temps, ces athlètes-là, je pense, et Félix en est conscient aussi, sont toujours à une blessure de voir leur carrière se terminer. Et honnêtement, quand c'est le temps de cacher, que tu veuilles ou pas, tu n'as pas le choix, il faut que tu caches. Tu sais. Et là, on ne parle même pas de la fondation parce qu'il ne fera pas une scène avec la fondation. Là, je suis convaincu de ça. Il n'y a pas d'argent qui va être appliqué pour lui. Et avant qu'on passe à l'autre sujet, Nico, il y a quelque chose qui m'a accroché parce que tu as dit que si le logo nous a pris par surprise, lui, il pensait depuis un bon petit bout quand même.
Ben 2019, ça fait 4 ans, ça veut dire qu'il avait 18, 19 ans, il n'avait jamais passé de deuxième tour Grand Chelem. Donc, on voit que, puis je ne pense pas que c'est seulement Félix, là, je pense que ça concerne tous les athlètes qui ont un minimum de potentiel, à quel point ils voient loin dans l'avenir. C'est-à-dire que, tu sais, ces athlètes-là, souvent, ils disent, on y va au jour le jour, tu sais, je ne veux pas trop voir en avant, mais pour ce qui est du marketing, pour ce qui est de la représentation, puis de l'après-carrière, ces athlètes-là, mine de rien, doivent y penser rapidement, puis ça faisait partie du plan. Félix se voit très, très gros, avec raison, parce qu'on sait qu'il a la capacité de devenir premier joueur mondial, mais de voir que ça fait 4 ans qu'il se prépare à cette éventualité-là, c'est à la fois ambitieux, mais impressionnant, je trouve.
Mais c'est des marques, c'est des entreprises. On le voit et c'est pas unique à Félix Auger-Aliassime. Regardez, tu sais, on parlait d'Eugénie Bouchard tantôt. Rapidement, elle a été sur les radars. C'est quelqu'un même qui ne jouait pas au tennis, mais qui continue à être actif. Puis les gens ont envie d'entendre parler d'Eugénie Bouchard parce qu'on la connaît, on s'est adapté, on l'a adopté comme athlète. On parle de Raonic aussi. On l'a aimé, on veut continuer à les connaître. Fait que c'est la même chose avec Félix Auger-Aliassime. Il y a pensé. Chose, c'est qu'il l'a fait déjà en rentrant dans la partie ou dans la game, excusez-moi l'anglicisme, ben il a déjà été stratège dans ça.
C'est certain que les athlètes sont des PME, mais ils doivent gérer ça avec attention quand même, parce qu'effectivement, Félix, avec sa grande maturité pour son jeune âge quand même, à 22 ans, là, il comprend très bien que ça passe par ses victoires sur le terrain et que sa crédibilité pour toutes ces marques-là passe par ses victoires. Mmh. Et souvent, je le répète, il y a des bonus reliés à son niveau de classement. Donc, ces contrats avec BNP, Dior, Renault ont sûrement des clauses qui sont reliés à des victoires et à un classement. Et je prends l'exemple, je prends 3 exemples intéressants. Je prends Raducanu, Emma Raducanu, qui, dès sa victoire au US Open, a eu des gros contrats, notamment avec Tiffany, le joaillier. Et ça ne s'est pas matérialisé après. Donc là, elle est prise avec cette pression en plus de très gros contrats et elle ne performe pas sur le terrain. Donc, ça ne va pas très bien pour une Raducanu. Eugénie, qui a pris une autre tangente, qui a eu des très beaux contrats aussi après ses performances en 2013, 2014, 2015, mais a pris une autre tangente. C'est sa marque personnelle qui a pris le dessus, qui fait qu'elle a réussi à être commercialisable encore. Eugénie, pour ses qualités personnel, très, très jolie fille, bon, qui rayonne beaucoup sur les réseaux sociaux, on le sait. Donc, pour les marques, c'était quand même payant, même si elle performait moins sur le terrain. Mais je suis heureux d'entendre qu'un Félix comprend très bien qu'il doit livrer sur les deux fronts pour que tout ça tienne encore. Mais encore une fois, c'était le moment pour lui de sauter dans le train de la commercialisation et de quelle valeur de marque il met de l'avant avec sa fondation et avec quelle fondation il s'associe aussi. Donc, mais c'est un sujet qui est vraiment intéressant, puis on peut en parler régulièrement.
Ouais, puis moi, je ne suis pas inquiet du tout pour Félix. Tu sais, tu faisais appel à sa maturité ou tu oui. notais sa maturité. Il a toujours été comme ça. Et là, prenez pas ça pour du cash. Là, j'y vais de mémoire à raconter cette anecdote-là. Mais je me souviens d'avoir eu une conversation avec Félix. Et lui, il avait été, si je ne me trompe pas, approché par Nike très jeune. Et ses parents avaient dit « Attendez une minute, on va attendre. On va attendre que le contexte soit plus défini pour signer une entente à long terme. » Et voilà ce qui est arrivé. Finalement, il a signé avec Adidas. Alors, j'ai l'impression que dans son cas, ça a été quand même une bonne décision parce que, visiblement, il devait avoir une meilleure option ou quelque chose qui fitait mieux avec lui. Alors, je pense que c'est un gars qui prend ce genre de décision-là au sérieux et ce, depuis très longtemps. Comme je l'ai dit, là, je pense que déjà chez les juniors Nike, il l'avait approché. Nico, tu avais l'air de vouloir ajouter quelque chose?
Non, j'allais dire que c'est juste comme Michael Jordan, mais à l'envers.
Exact. Et d'ailleurs, Nico, au courant de ta conversation avec lui, tu lui as mentionné que on acceptait son offre également pour être porte-parole de Sur la ligne. Tu lui as dit ça?
Il a dit à condition que j'ai une casquette bleue et une blanche.
On peut s'arranger ça. Il y a même une noire qui a été en édition très, très, très limitée. En fait, okay. Elles sont tous en édition.
C'est un collecteur maintenant.
Exact, exact. Ben, Félix, tes casquettes seront prêtes et tu es officiellement la porte-parole de Sur la ligne. Co-porte-parole, parce que je pense qu'on va mettre Alexis, son meilleur chum, avec lui également. Ça va être nous, c'est comme Québec solidaire. On a deux. Ben, en fait, c'était comme Québec solidaire avant.
Exact.
Ça nous prend une femme, là. Ça nous prend une représentation. On veut être bien représenté. Ça prend aussi une femme.
Léla,
on
met aussi Léla, c'est réglé.
Si Eugénie nous écoute.
Oui, mais Léla est déjà une amie du podcast depuis
oui,
un
mois. Oui, t'as raison.
Eugénie vient, elle peut venir sur le podcast et puis on pourra en discuter en direct. T'sais, ça se négocie
on
comme ça en direct sur les ondes. Exactement. Parlant de promotion, autre sujet qui a fait beaucoup jaser et pour lesquels on a vraiment l'équipe All-Star pour en parler, je vais vous montrer la promo de Wimbledon. C'est pas très radio, là. Je vais la commenter en même temps. Ça dure à peu près une minute. Je veux que vous concentriez sur les noms là, qui apparaissent. Alors, dans la promo que Wimbledon a sortie, on voit dans le passé comme jamais, là, et on voit Federer, Nadal, McEnroe, les deux sœurs Williams. On voit des photos de tous ces joueurs-là. Coco Gauff, là, quand on parle de l'avenir. Il y a également, après Coco Gauff...
Onze Jabeur.
Ouais, Onze Jabeur, voilà. Onze Jabeur qui est là... Et Nick Kyrgios, qui est dans cette promo-là également, avec son service entre les jambes, avec des shots de McEnroe. On fait référence au passé, au futur. Il y a des joueurs en chaise roulante. Je le connais pas vraiment, ce joueur-là. Honnêtement, je suis pas beaucoup la chaise roulante. Andy Murray, évidemment, qui a sa place très méritée dans cette promo-là où, je rappelle, on fait appel au passé et au présent. Rybakina, évidemment, puisqu'elle est la championne. Il y a une timide photo de Novak Djokovic en arrière de Rybakina. Et par la suite, il y a des photos de tous les jeunes joueurs, là, Carlos Alcaraz, Viatek et Félix fait partie de cette promo-là. J'ai prononcé une seule fois le nom de Novak Djokovic et j'ai dit timidement, c'est ce qu'il était en photo, en surimpression. Et ça fait beaucoup jaser, et je commence avec toi, Hugues, parce que Novak, en gros, n'est pas dans cette promo-là, alors qu'il est un des plus grands champions et champion en titre de ce tournoi-là. Quoi penser de ça?
Non seulement des plus grands champions en titre, des grandes victoires et le GOAT en termes de statistiques, mais ça révèle encore quelque chose dont on a parlé à quelques reprises. Je pense que malheureusement, dans certains cas, il y en a qui vont dire ben, c'est peut-être légitime, mais les gens tendent à oublier Novak Djokovic quand on est dans le discours des joueurs qui touchent le plus le monde du tennis. Et j'ai peur aussi, comme un certain Ivan Lendl, grand champion, que les gens oublie malgré tout rapidement Novak Djokovic quand il va se retirer du tennis. C'est la peur que j'ai et je pense que c'est pour ça en ce moment qu'il tente de réécrire le livre d'histoire, d'aller chercher un grand chelem calendrier cette année. Je le mets encore comme favori, tout comme Nico pour qu'il y arrive. Mais les gens ont tendance à oublier Djokovic parce qu'il ne les a pas touchés, il ne les touche pas comme les gens qu'on voit sur cette vidéo-là, McEnroe, Nadal, Federer, et c'est bon, c'est quand même étonnant de voir un Kyrgios et de ne pas voir Djokovic, hein, on va en convenir, mais ça révèle encore quelque chose, le fait qu'il a été un peu oublié sur cette vidéo-là.
Mais Hugues, c'est pas un oubli, ces grandes productions-là ne font pas des oublis de ce genre-là.
Non, je veux dire, c'est un choix.
C'est un choix, je veux dire, c'est sûr que c'est un choix qu'il n'est pas là, ou en tout cas, il est là de façon timide avec une photo en background, puis c'est Rybakina qui est par-dessus, mais il n'y a pas de vidéo de lui en action dans cette promo-là.
La seule explication, elle doit être politique. Encore une fois, on sait que Wimbledon a pris des positions qui ont coûté cher en termes de points, en termes de participation il y a un an. Les allégeances ou l'appui de son père ouvertement durant l'Open d'Australie à la Russie pourrait peut-être motiver cette décision-là. Mais il y a beaucoup de choses qui tournent autour de Novak Djokovic qui ne plaisent pas à certaines autorités, c'est clair.
Tu pourras répondre à ça, Hugues, aussi. Mais Isaac, quel avantage a Wimbledon à faire une promo comme ça qui, à mon sens, t'as beau ne pas être d'accord avec le personnage sur plein de plans éthiques ou personnels, mais il reste que tu as un tournoi de tennis et c'est un de tes plus grands champions et tu ne le mets pas dans ta promo, c'est le champion en titre du tournoi. Je veux dire, quel intérêt tu as à faire à ne pas vraiment le mettre dans ta... Je ne sais pas, moi, je ne le vois pas, l'intérêt.
Ben, moi, je vais vous amener ça autrement. Okay? Lorsqu'on fait de la publicité, on a toujours un brief. Hein? C'est quoi les objectifs de communication et tout ça. Puis moi, quand je regarde cette promo-là, je vois le brief diversité, nouvelle génération. Mm-hmm. On part du passé, les plus grandes rivalités, on parle des Sir Williams, on parle McEnroe, on parle Nadal, Roger Federer, on part du passé. Après ça, on nous présente des joueuses et des joueurs, on est dans la diversité. Coco Gauff, on est justement, tu sais, on y va afro-américaine. Après ça, on s'en va au niveau arabe. Après ça, on s'en va, on a Nick Kyrgios, qui est australien, mais qui est aussi dans les Premières Nations. Tu sais, on s'en va dans d'autres choses. Bon, Andy Murray, on n'a pas le choix, c'est le local. Et après ça, on s'en va dans le para-tennis. Donc, moi, ce que je vois comme brief, c'est vraiment d'aller vers la diversité. Et après ça, bon, oui, on met les anciens champions rapidement, puis on s'en va vers le futur, vers les jeunes. Où est-ce que notre tennis s'en va? Puis même si... puis là, tu sais, je fais pas l'avocat du diable, je fais juste d'exposer. Moi, je lis un brief là, quand je regarde la publicité et c'est ce que je vois. On a répondu à ce brief-là, puis on a quand même mis tout le... Tu sais, il y a beaucoup de contenu pour une minute. Il y a beaucoup de personnes dans ça. Et puis quand on revient aussi du côté marketing, on a mis des gens qui sont... chaleureux, qui sont intéressants, qu'on met de l'avant, qu'on a envie d'entendre parler. Puis au-delà des performances, on est allé dans l'humain. C'est ce que moi, j'ai vu.
Je suis assez d'accord avec ta perception sur le côté humain parce que effectivement, quand tu regardes tous les joueurs qui sont là, ce sont tous des joueurs assez sympathiques, mais en même temps, ce qui ne concorde pas, c'est que Nick Kyrgios n'est pas l'enfant de cœur non plus. Et il est là dans cette promo-là.
Oui, mais j'aime voir Nick Kyrgios. Moi, j'aime Nick quand il va bien. Il me fait vibrer sur un court de tennis. Puis bon, tu sais, je vais vous en parler. Je ne sais pas si on en parle aujourd'hui. On va en parler la semaine prochaine. Mais je regarde toute l'histoire de Nick Kyrgios qui revient avec des enjeux de santé mentale, qui a fait, Breakpoint là, qui va sortir. Puis c'est dans ça qu'on l'entend, qu'il y a eu des enjeux vraiment solides de dépression, de consommation. Il a été interné en psychologie. Donc, mais ce gars-là a un talent incroyable, puis il est beau à voir jouer. Moi, je regarde la finale en double là, au Australian Open, comment c'était beau. Puis Nick Kyrgios est allé en finale l'année dernière contre Joko. Il a perdu contre Nadal en 2019. Il a tout en main pour pouvoir justement se rendre loin dans ce tournoi-là. Fait que moi, je ne suis pas surprise de le voir. Puis on le compare à McEnroe. L'enfant terrible McEnroe qu'on a aimé, bien, Nick Kyrgios est un peu ce profil-là.
OK, mais Isa... T'en as vécu beaucoup des trucs comme ça, puis t'en as produit beaucoup. T'es la directrice marketing de Wimbledon. Puis ta promo, il n'y a pas Novak Djokovic. Dis-moi que tu dis OK, parfait, ça fit avec ce qu'on pense puis la logique dans laquelle on va.
Il y a clairement une raison pourquoi ils l'ont mis en sourdine comme ça.
C'est juste que nous, on ne la connaît pas, cette raison-là.
On peut déduire quand même.
On peut déduire. Puis tu sais, je pense que de toute façon, Novak il fait la promo lui-même. Puis si on regarde, oui, il y a Wimbledon, mais il y a tout aussi des stations. Puis moi, quand j'ai regardé d'autres promos, Novak est là. Donc, je pense que, à quelque part, je comprends la polémique. Je sais que là, il y a eu des changements. Là, ils ont rajouté Novak sur le visuel, sur les pages sur Twitter et sur les médias sociaux. Donc, tu sais, quand on fait une campagne de promotion, il y a différents éléments et tout s'embrique ensemble à la fin. Est-ce que c'était un oubli? Est-ce que c'était voulu? Ou est-ce que c'était déjà prévu? Là, tu sais, je ne suis pas assez au courant de tous les éléments. Mais je pense qu'il doit faire partie de la promotion, mais est-ce que c'est obligé qu'il fasse partie prenante avec une grosse place dans la vidéo promo? Moi, ça ne me choque pas.
OK. Intéressant. Moi, je suis renversé complètement que le plus grand joueur de l'histoire ne soit pas dans cette promo-là. Peu importe. Nico, en une minute rapidement, parce que je dois passer à l'autre bloc, là, je veux ton opinion là-dessus.
Ce qui me fascine, c'est à quel point Joko
polarise.
Il y a un clivage. Puis je le vois dans les courriels que je reçois des gens.
Exact.
Les lecteurs de la presse, dans mon texte, lorsqu'il a gagné Roland-Garros, j'ai écrit qu'il était sans doute le plus grand, mais que ce débat-là ne serait jamais défini parce que trop subjectif. Puis il y a des gens qui, d'une part, disent « c'est clair qu'il est le plus grand. En plus, il n'a pas joué certains tournois en raison du fait qu'il n'a pas le vaccin. Il a été disqualifié de Wimbledon à cause de la balle. Fait qu'il aurait déjà 26 titres Grand Chelem. Et d'autres, au contraire, disent « jamais ». Il n'a pas l'ambition puis l'ampleur de Federer, Nadal, puis c'est pas le numéro un, puis exact, puis il ne le sera jamais. Fait que de voir que ça divise autant tout ça, pourquoi? Pour déterminer qui est le GOAT, c'est hallucinant. Là. Tu sais, c'est un débat qui est futile ultimement, là. Mais c'est impressionnant, puis c'est spectaculaire.
Moi, je trouve que Joko, il est très... il sait ça. Tu sais, puis je l'ai entendu faire des... Ben, en fait, il est ce qu'il est. Il ne veut pas faire de compromis sur la personne qu'il est. Et il reconnaît qu'il a un caractère de cochon. Il reconnaît que ce n'est pas une personnalité facile. Puis, tu sais, il a fait plusieurs entrevues. Puis, je pense que là, il est en train de s'ouvrir à montrer son aspect, son côté un peu plus humain, justement, dans les médias. Parce que je vois un peu plus d'entrevues sortir où ce qu'il nous parle de lui, il montre ses enfants, tu sais, il s'en va à Disney à Paris avec ses enfants après la victoire. Il a fait plusieurs promotions pour justement nous aider à mieux comprendre le personnage, puis qu'est-ce qu'il est, puis pourquoi que c'est si important. Pour lui, ben à 36 ans, d'être la machine qu'il est, pour lui, il se considère comme une machine de tennis. Mais en même temps, c'est important d'amener l'aspect humain. Puis c'est peut-être une des raisons pourquoi aussi on ne l'a pas vu dans la promo. Là.
Bref, intéressant. Quand l'émission sera publiée, venez donc nous dire dans les commentaires ce que vous pensez du fait que Novak n'était pas là. Même nous, au sein de l'émission, on est un peu divisés. Certains comprennent, d'autres, c'est mon cas, comprennent pas. Dites-nous ce que vous en pensez. On va faire une courte pause et au retour, Abraham Santer se joint à nous. On va parler des autres Canadiens et de ce qui s'en vient la semaine prochaine.
Les cartes cadeaux Monville sont toujours une bonne idée. Que ce soit pour offrir à un ami, à de la famille ou pour vous faire plaisir, passez à l'action et achetez dès maintenant votre carte cadeau sur hotelmonville.com. Le restaurant Monem, c'est revenir à l'essence même de l'art de vivre et du bien manger. Une offre qui met de l'avant des cocktails créatifs et des plats généreux inspirés de la gastronomie française. Venez vite le découvrir. Rendez-vous sur monem.ca.
C'est rendu une tradition, ou presque une jeune tradition, Abraham Santer qui se joint à nous pour nous parler de ce qui s'est passé avec les autres Canadiens cette semaine, parce qu'il suit ça pour nous. Abraham, comment vas-tu?
Ça va très bien, je suis heureux d'être encore là aujourd'hui. Et on a beaucoup de Canadiens à surveiller qu'on n'a pas parlé à date dans l'émission d'aujourd'hui, donc j'ai hâte de vous partager ça.
Ben voilà, écoute, tu veux commencer avec qui sont les Canadiens sous le radar cette semaine?
Oui, bien premièrement, j'avais parlé de Gabriel Diallo la semaine passée, qui était en Grande-Bretagne, qui avait fait une bonne performance, puis qui commençait à Nottingham.
Dans le Challenger, évidemment, pas dans le...
Dans des Challengers, exactement. Je vais juste parler de ça aujourd'hui. Gabriel Diallo qui a atteint un autre quart de finale avec des bons matchs, qui s'habitue clairement au gazon en vue des qualifications ou du tableau principal à Wimbledon, on ne sait pas encore. Cette performance-là l'amène au rang de 137e au monde. C'est son meilleur classement en carrière. Donc, c'est vraiment... Ça avance, puis ça va très bien pour Gabriel, le Québécois. et il avait perdu un quart de finale contre Arthur Cazot. Et dès cette semaine, il rejoue à Ilkley, au nord de la Grande-Bretagne. Et il va se mesurer dès le premier tour à Arthur Cazot. Donc, il pourrait prendre sa revanche dès demain ou aujourd'hui. Donc, ça, c'est intéressant à surveiller. De l'autre côté, à Puerto Rico, je vous avais parlé de Alexis Galarneau qui était là-bas en action. Il y a un autre Canadien qui a fait une petite surprise là-bas. C'est Liam Draxel. Est-ce que vous le connaissez?
Ouais, il était acclamé l'année passée, joueur, un des meilleurs joueurs college aux États-Unis.
Université du Kentucky. Oui.
Exactement. Il joue à l'université, puis là, il a fait quelques tours en Challenger et il a battu à Puerto Rico la première tête de série du tournoi en trois manches. Au bris d'égalité, il a gagné ça dès le premier tour. Donc, c'est vraiment un bon résultat. Puis il a atteint le quart de finale du tournoi. Donc, un petit bon résultat pour Liam Draxel qui pourrait, on va sûrement en entendre parler cet été aussi à l'Omnium Bank National à Toronto. Et dans le même tournoi, Alexis Galarneau qui a fait le quart de finale aussi, mais que je tenais à souligner, il a récolté deux bagels. Il a fait 2-6-0 à son avantage, donc ça, c'est intéressant. Et dès cette semaine, là, Alexis Galarneau, il s'en va en Colombie, à Cali, dans un autre Challenger, et il va être la troisième tête de série, si je ne me trompe pas exactement. Donc, il va affronter un qualifié dès le premier tour, donc c'est encore là, prometteur pour peut-être une demi-finale ou se rendre loin dans un autre Challenger. Ça, c'est très intéressant.
Ben, c'est une bonne nouvelle pour Alexis, parce que quand on regarde les dernières semaines, et je pense que c'est à peu près au moment où on y a parlé, alors c'est peut-être c'est nous qui l'a fait débloquer, et je le dis avec un sourire, mais quand on regarde ces derniers tournois, quart de finale, il y a trois tournois, demi-finale la semaine passée, et ben, il y a deux semaines en fait, et là, un autre quart de finale la semaine passée, les victoires commencent à s'enchaîner pour Alexis, et ça, c'est une méchante bonne nouvelle à l'approche tranquillement de l'Omnium Banque Nationale. Ils vont être où tous ces gens-là la semaine prochaine, mon cher Abraham?
Oui, exactement. Donc, Diallo à Ilkley, comme que j'ai dit auparavant, Galarneau en Colombie. Et finalement, je voulais ajouter une autre joueuse qui va être en action à Ilkley au nord de la Grande-Bretagne, Catherine Sebov, qui fait un retour, mais c'est un Challenger W100. C'est un tournoi ETF, mais c'est un gros tournoi à 100 000 $ de bourse. Et elle va affronter dès le premier tour, ce ne sera pas facile, elle va affronter la première tête de série, l'Américaine Emma Navarro, qui est 68e raquette mondiale. Donc, ce n'est pas un match donné pour Catherine Sebov, mais on le sait, elle a fait quand même beaucoup de bons matchs cette année. Donc, on pourrait avoir une autre surprise et des bons résultats de notre Canadienne.
Oui, elle n'est pas si jeune, Emma Navarro, quand même, début vingtaine, mais quand ça reste quand même un bel espoir du tennis américain, même à 22 ans. Et avant qu'on cesse, tu veux nous rappeler où sont nos grandes têtes de série la semaine prochaine?
Ben oui, Milos Raonic qui est à Londres au Queens, qui va jouer dès demain. Bianca Andreescu qui est à Berlin. Et Denis Shapovalov, d'ailleurs, qui a remporté son match ce matin à Halle en Allemagne. Ça, c'est tous des tournois de niveau 500, donc à surveiller pour nos Canadiens.
Alors, Halle qui était la maison de Federer, on n'en a pas parlé, mais c'était son tournoi pendant longtemps. Et puis, c'est comme sa troisième maison là, après la Suisse, Wimbledon et peut-être Halle. Ben, merci beaucoup, Abraham. Excellent résumé. Et ça complète l'émission d'aujourd'hui. Et Nicolas Richard, comme c'est la tradition, ben, je te donne le mot de la fin.
Bon tennis, Alex. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, Eber. Bon tennis, Isa. Bon tennis, tout le monde.